l'écoute de RFI, 4h en temps universel, il est 5h ici à Paris. L'heure d'un nouveau journal. Bonjour Martin Guèze.
Bonjour Arthur Ponchelet et à tout à l'heure et bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Bon réveil à l'écoute de RFI. Nous sommes le vendredi 21 mars 2025. Voici les titres de l'actualité internationale. Le CIO, Fepponov, échange de visage. Le très conservateur comité international olympique Adoub Kirsty Coventry, ancienne gloire de la natation. La Zimbabwéenne de 41 ans, toute première femme à diriger l'institution en 131 ans d'existence. C'est la première non-européenne élue depuis 1952. Kirsty Coventry, habituée de l'arène politique, elle qui était déjà ministre des Sports au Zimbabwe depuis 2018. Au Zimbabwe, aux États-Unis, à présent, Donald Trump qui persiste et signe face au ministère de l'Éducation, ministère démantelé par décret, le Congrès doit encore approuver. Mais syndicats et enseignants se montrent déjà très inquiets. Les États-Unis, où un scientifique français a été refoulé, vous l'entendrez. Nous serons aussi en Turquie, où les manifestations de soutien au maire d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu, se multiplient. Le parti pro-kurde rejoint la danse des protestataires. En Inde, de nouvelles violences interreligieuses, des groupes hindous s'en prennent à la tombe d'un empereur musulman du XVIIe siècle. Enfin, en football, soirée chargée entre les éliminatoires de la Coupe du Monde dans la zone Afrique et les quarts de finale de la Ligue des Nations. Encore une fois, la voilà, tout au sommet du podium. Kirsty Coventry a gravi l'Olympe hier dans le petit paradis grec de Costa Navarino, où une petite révolution a eu lieu après 131 ans d'existence. Le Comité international olympique a placé à sa tête une femme. C'est une grande première, la protégée de Thomas Spahr, qui prend donc la succession de l'Allemand, qui était à la tête de l'institution depuis 2013, l'ex-nageuse zimbabwéenne de 41 ans, 7 fois médaillée olympique, n'a eu besoin que d'un seul tour de scrutin pour s'imposer, récoltant 49 des 97 voix. Une consécration pour la native d'Harare, aussi à l'aise dans les bassins que dans l'arène politique, Paul Lorgerie.
Kirsty Coventry était certes la seule femme candidate, mais elle était également la plus jeune de tous du haut de ses 41 ans. Née à Harare en 1983, elle baigne dans une famille de nageurs qui lui apprend la discipline dès son plus jeune âge. Habituée des Jeux du Commonwealth à ses débuts, elle participe à ses premiers Jeux Olympiques en 2000 avant de décrocher son premier titre olympique 4 ans plus tard à Athènes lors de l'épreuve du 200 mètres d'eau, titre qu'elle renouvelle à Pékin en 2008. Un palmarès auquel s'ajoute une multitude de médailles d'or, d'argent et de bronze dans différentes compétitions internationales. Petite fille de colon, on se souvient qu'elle avait été reçue avec les honneurs lors de son retour au pays après les Jeux. Le président d'alors, Robert Mugabe, la qualifiant d'enfant du Zimbabwe et de fille en or. En 2013, elle entre au CIO en tant que représentante de la commission des athlètes, poste qu'elle occupe jusqu'en 2021, année où elle devient membre individuel. Entre-temps, la nageuse devenue maman d'une petite fille embrasse une carrière politique en 2018, devenant ministre zimbabwéenne de la jeunesse, des sports et des arts, fonction qu'elle occupe encore aujourd'hui.
Kirsty Coventry qui prendra ses fonctions le 23 juin prochain et qu'on retrouvera à l'œuvre dès l'an prochain pour les Jeux Olympiques de la jeunesse à Dakar. Autre consécration pour une femme africaine, Netumbo Nandi-Ndjendwo, qui prête aujourd'hui serment comme présidente de la Namibie, première femme présidente de ce pays d'Afrique australe de 3 millions d'habitants. Ce sera d'ailleurs le dossier de notre journal de 7h temps universel. Direction les États-Unis, à présent, où Donald Trump démantèle méthodiquement le ministère de l'Éducation. On y reviendra avec notre reportage dans quelques minutes. Les États-Unis, où un scientifique français a été refoulé, un chercheur dans le domaine spatial, qui a subi un contrôle aléatoire dès son arrivée sur le sol américain, où il n'était visiblement pas le bienvenu. Les autorités lui reprochent des messages critiques envers le nouveau président républicain, des messages jugés haineux retrouvés dans son ordinateur, Loubna Naki.
Il devait assister à une conférence sur l'espace près de Houston dans le Texas, mais ce chercheur français n'a finalement jamais franchi la porte de sortie de l'aéroport. En atterrissant aux États-Unis, il fait l'objet d'un contrôle aléatoire. Les agents des douanes fouillent alors son téléphone et son ordinateur et passent en revue certains de ses échanges avec ses proches et ses collègues. Des messages jugés critiques à l'égard de la politique de Donald Trump en matière de recherche scientifique auraient été découverts. Le matériel électronique est aussi saisi et le chercheur, qui était en mission pour le CNRS, est lui placé à bord d'un avion direction l'Europe. Selon l'agence France Presse, les autorités américaines estiment que ces messages traduisaient, je cite, une haine envers le président américain et que cela pouvait être qualifié de terrorisme. Un incident qui a beaucoup fait réagir. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche français s'est dit préoccupé. Philippe Baptiste a également réaffirmé l'attachement de la France à la liberté d'opinion et aux libertés académiques. Cet incident n'est que le dernier d'une série d'expulsions et de détentions de voyageurs arrivant aux États-Unis ou résidant dans le pays, alors que Donald Trump poursuit sa politique anti-immigration et ses restrictions visant la communauté scientifique. Loubna Anaki, New York, RFI.
Panne de courant XXL au Royaume-Uni, le plus grand aéroport d'Europe, à savoir celui d'Heathrow, qui vient d'annoncer sa fermeture à cause d'un incendie qui s'est déclenché dans une sous-station électrique, ce qui a déclenché une immense panne. Fermeture provisoire jusqu'à minuit, annonce l'aéroport. RFI 6h06, 6h05, à Jérusalem, le gouvernement israélien qui limoge le chef du renseignement, Ronen Bar, qui dirigeait le Shin Bet, l'agence de sécurité intérieure, était dans le viseur du Premier ministre Benjamin Netanyahou, qui disait ne plus avoir confiance en lui. À son initiative, son gouvernement a approuvé à l'unanimité le limogeage de Ronen Bar, qui a multiplié ces derniers mois des enquêtes visant le pouvoir en place. L'armée israélienne qui poursuit par ailleurs son opération au sol dans le sud de la bande de Gaza, même si le président Isaac Herzog s'est dit troublé par la reprise des combats. Il s'agit de l'une des très rares critiques émises de sa part contre la politique de Benjamin Netanyahou. Selon la défense civile de Gaza, au moins 504 personnes sont mortes depuis la reprise des frappes israéliennes ce mardi. Direction Istanbul, où le maire Ekrem İmamoğlu a été arrêté ce mercredi. Ekrem İmamoğlu, principal opposant au président Recep Tayyip Erdogan. Ekrem İmamoğlu à la tête de la capitale économique turque depuis 2019. Une arrestation aux très lourdes répercussions. Des dizaines de milliers de personnes manifestent en soutien dans les plus grandes villes du pays, alors que l'homme de 54 ans est toujours en garde à vue. Sa formation, le Parti Républicain du Peuple, reçoit des soutiens de toutes parts, et notamment du parti pro-kurde, un soutien très remarqué, alors que Recep Tayyip Erdogan fait tout pour diviser ses opposants. Correspondance à Ankara, à Nandler.
Avec l'arrestation d'Ekrem İmamoğlu et la répression inédite contre son parti, le CHP, ces derniers mois, l'objectif du pouvoir n'est pas seulement d'écarter le principal rival de Tayyip Erdogan. Il est aussi de briser l'alliance informelle entre le premier parti d'opposition turc et le parti pro-kurde DEM, une alliance qui représente la plus grande menace pour le président dans les urnes. Ainsi, le fait que le pouvoir d'un côté criminalise le CHP et de l'autre tendent la main aux Kurdes, en négociant la paix avec le chef emprisonné du Parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK, n'a rien d'un paradoxe. Il s'agit d'éloigner les électeurs kurdes du CHP, de dissuader le parti pro-kurde légal, le DEM, de lui être entièrement solidaire. Pour l'instant, cela ne semble pas fonctionner. Tülay Hatimoğlu, vice-présidente du DEM, rendait une visite de soutien au CHP jeudi.
Nous considérons cette arrestation comme un coup d'État contre la volonté populaire. Dans cette période où nous discutons de la paix au sein de la société, nous analysons ce qui se passe comme une façon de saboter la paix et l'établissement de la démocratie dans ce pays. Nous ne pourrons jamais l'accepter. Nous ne l'accepterons pas.
Mais Recep Tayyip Erdogan a le temps de mettre en œuvre sa stratégie. La prochaine présidentielle ne doit pas avoir lieu avant 2028. Ankara, RFI.
Le secrétaire du Conseil de sécurité russe, Sergueï Shoigu, est arrivé à Pyongyang où il va rencontrer le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. C'est ce qu'ont annoncé ce vendredi plusieurs agences de presse russes, la Corée du Nord et la Russie, qui ont renforcé leur coopération militaire ces derniers mois. Les deux pays ont signé un accord de défense mutuelle à l'occasion d'une rare visite du président russe Vladimir Poutine en Corée du Nord l'an dernier. Sur le continent asiatique toujours, situation explosive en Inde, dans la ville de Nagpur, où des groupes hindous radicaux s'en sont pris à la tombe de l'empereur moghol Aurangzeb, qui régna au XVIIe siècle, un célèbre dirigeant musulman. La rumeur de Coran brûlé a entraîné des affrontements interreligieux. 70 personnes ont été blessées. Des dizaines d'arrestations aussi depuis lundi. Un couvre-feu a même été déclaré comme bastin.
C'est un nouvel exemple d'affrontement interreligieux pour des rancunes vieilles de plusieurs siècles et instrumentalisées en Inde. La sortie d'un film dépeignant cet empereur musulman comme un conquérant sanguinaire a poussé des mouvements radicaux hindous à exiger le démantèlement de sa tombe. Les militants du mouvement extrémiste VHP accusent Aurangzeb d'avoir persécuté les hindous et détruit leur temple, même si la plupart des historiens nuancent ce portrait de tyran. À Nagpur, des effigies de l'empereur ont été brûlées pendant que des manifestations ont eu lieu dans plusieurs villes du Maharashtra. Des heurts ont ensuite éclaté entre hindous, musulmans et police. Des véhicules ont été incendiés, des habitations ravagées. Plus de 1000 policiers ont été déployés et ont dû recourir à des gaz lacrymogènes avant d'interdire les rassemblements. Le ministre en chef du Maharashtra, Devendra Fadnavis, a assuré que la tombe serait protégée. Ce nationaliste hindou a cependant ajouté qu'il regrettait de devoir sécuriser la sépulture de l'empereur controversé, classé au patrimoine archéologique en Inde. Combastin, Bangalore, RFI.
En France, à présent, suite du procès des geôliers du groupe État islamique, parmi lesquels figure Mehdi Nemmouche, le tueur du musée juif de Bruxelles, poursuivi avec 4 co-accusés pour la séquestration d'otages occidentaux en Syrie entre 2013 et 2014. Poursuivi aussi pour torture, le parquet a requis la perpétuité contre Medine Mouche. Son avocat estime, lui, que les ex-otages, qui l'ont décrit comme un geôlier particulièrement sadique, font erreur. Compte rendu d'audience, Laura Martel.
La défense de Medine Mouche a pu surprendre, paraître trop agressive, irrationnelle parfois, concède Maître Villemain. Mais l'avocat l'affirme, ce n'est pas une défense complotiste, comme a pu la qualifier l'accusation, mais une défense totale, nécessaire, dit-il, face au poids écrasant des parties civiles dans ce procès où toute la presse française est au soutien corporatiste des victimes journalistes. Si Medine Mouche a reconnu avoir combattu en Syrie, il nie avoir été un geôlier tortionnaire, comme l'attestent pourtant les ex-otages. Mais pour Maître Villemain, ses victimes sont passées, au cours des 10 ans d'enquête, du doute à la certitude absolue par des reconstructions a posteriori, à force de partage d'informations, mais aussi sous l'impulsion d'enquêteurs dont les méthodes malhonnêtes visaient à identifier à tout prix Medine Mouche comme le geôlier Abou Omar. Mais Abou Omar n'existe pas, c'est une figure kaléidoscopique créée à partir de plusieurs gardiens par des victimes en quête de coupable idéal, à cette Maître Villemain. C'est un tortionnaire trop beau pour être vrai, sadique à souhait, antisémite jusqu'au bout de la calache, mais avec le sens de la conversation mondaine et poussant parfois la chansonnette. Mais antisémite, sadique, il le sont tous, s'insurge l'avocat. Les variations anarchiques des témoignages doivent donc inspirer le doute, soutient-il, pointant ainsi vers l'acquittement, sans toutefois le demander.
Alors à Martel, le verdict de ce procès qui est attendu ce vendredi 21 mars, en fin de journée. On termine sur les terrains de foot, avec d'abord la 5e journée des qualifications pour la Coupe du Monde 2026 dans la zone Afrique, et les Comores qui tombent de leur nuage, balayés 3-0 par le Mali dans le groupe I, un groupe dominé par de surprenants malgaches. Et puis dans les autres rencontres, mauvaise opération pour le Bénin, les Guépards qui menaient 2-0 face au Zimbabwe, mais qui ont fait match nul 2-2, carton du Gabon, 3-0 face aux Seychelles, et match nul très prolifique entre la Gambie et le Kenya, 3-3 entre les Scorpions et les Arambistars. Et puis du foot en Europe, on joue les quarts de finale aller de la Ligue des Nations. Excellent coup pour l'Allemagne qui l'emporte 2-1 en Italie. Excellent coup aussi pour la Croatie qui bat l'équipe de France 2-0 de partout dans le choc entre l'Espagne et les Pays-Bas. Et puis le Danemark qui surprend le Portugal 1-0. RFI 5h12 ici à Paris. L'info continue. Restez bien avec nous.
Pour réécouter ce journal, rendez-vous sur RFI.fr.
RFI, toute l'actualité.
Martin Guez.
Et à suivre dans le prochain quart d'heure, ces preuves trumpistes croisées par Edouard Maille dans l'état de Géorgie aux États-Unis. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils sont à contre-courant dans un moment où le président Donald Trump multiplie les décrets pour démanteler et enterrer le ministère de l'Éducation. Nous appellerons Emeline Vin à Londres, alors que les violences commises par les très jeunes se multiplient au Royaume-Uni. Jean-J. Dominique viendra ensuite nous parler de son nouveau roman, le 8e de l'écrivaine haïtienne, intitulé « Tu nous manques ». Elle sera l'invitée de Catherine Fruchon-Toussaint avant le Conseil Santé. Et puis notre choix musical, Bargos et Koffi Olomidé en fin d'édition. Mais tout de suite, direction les États-Unis. Démanteler, éliminer, enterrer l'éducation nationale, une surenchère dans les mots et dans les actes aux États-Unis. Après avoir réduit de moitié les effectifs du ministère, Donald Trump prend un nouveau décret ordonnant son démantèlement pur et simple. La décision qui doit encore être validée par le Congrès, et si la porte-parole de la Maison-Blanche estime que le nouveau président vole au secours des enfants américains, les opposants aux républicains sont eux très inquiets. Le département fédéral doit fermer, ce qui alarme enseignants et syndicats, historiquement électeurs démocrates, mais pas tous. Certains profs sont de fervents soutiens et ont voté Trump, comme ceux rencontrés à Atlanta par notre correspondant. Reportage réalisé avant l'annonce de la suppression du ministère. Reportage signé Edouard Maille.
Le groupe d'amis, presque tous des enseignants, est réuni dans un bar pour un jeu de culture générale. Steve, 39 ans, enseigne les sciences au lycée dans un quartier populaire. Il avait voté pour Joe Biden il y a 4 ans, mais a décidé de soutenir Donald Trump à la dernière élection.
Dans son plan, il a promis ou s'est engagé à dissoudre le ministère de l'Éducation pour réduire les dépenses du gouvernement. Je trouve que ce qu'a fait le pays avec ce ministère est terrible pour les élèves en général, car je pense qu'il y a des endroits où l'argent fédéral pourrait être mieux dépensé pour améliorer les écoles. Mais la façon dont ils le font, en essayant d'avoir les mêmes standards pour tous les élèves dans chaque État, est irréaliste. Chaque État devrait s'en occuper, car ils comprennent mieux les besoins de leurs élèves et de leur district.
Un avis partagé par Kurt, 72 ans, les cheveux brossés en arrière, le professeur de physique se réjouit aussi du discours de Donald Trump contre l'enseignement de sujets liés au genre, aux personnes LGBTQ+, LGBTQ+, ou aux minorités.
Ce qui se passe avec l'éducation depuis des années et pendant la dernière présidence, elle devient de plus en plus woke. Au lieu de se préoccuper de ce qui est le mieux pour l'enfant, pour son apprentissage et qu'il réussisse dans la vie. Quand j'étais enfant en primaire, ma seule inquiétude était d'apporter une pomme au professeur, apprendre à lire et profiter de ma journée à l'école.
Mike, 42 ans, un bonnet enfoncé sur la tête, enseigne à l'école primaire dans des classes pour élèves en difficulté. Il préfère ne pas dire pour qui il a voté, mais il ne pense pas voir de changement avec Donald Trump.
I don't know if he'll possibly make school better. There might be some changes.
Je ne sais pas s'il pourra améliorer l'école. Il y aura peut-être des changements pour nous aider. Je touche du bois. Mais je ne sais pas s'il y aura des différences. Ça dépend de ce que fait notre comté, de ce que fait notre État. Ça peut changer à l'échelle nationale. Mais je pense que le comté a le plus d'influence.
Le financement du gouvernement fédéral menacé par Donald Trump représentait seulement 14% du budget total des écoles primaires, collèges et lycées publics pour l'année fiscale 2022. Le reste provient des États ou collectivités locales, mais les fonds de Washington servent aussi à aider des établissements dans des régions plus pauvres où les difficultés scolaires sont plus importantes. Edouard May, Atlanta, RFI.
Un reportage à réécouter sur notre site internet www.rfi.fr à l'onglet Reportage international. Et direction le Royaume-Uni qui fait face à une flambée de violence chez de très jeunes Britanniques. Un teenager de 19 ans qui vient d'être condamné à la perpétuité avec une peine de sûreté de 49 ans à la suite d'un fait divers absolument sordide. On en parle ce matin avec notre correspondante à Londres, Emeline Vin. Bonjour Emeline.
Bonjour, bonjour à tous.
Alors le jeune homme s'appelle Nicolas Prosper, il est coupable d'avoir tué 3 membres de sa famille en septembre dernier.
Après avoir assassiné sa mère et ses frères et sœurs, le jeune homme projetait une fusillade de masse dans son lycée. L'enquête a dévoilé une préparation méticuleuse et effarante. Nicolas Prosper s'était procuré un fusil de chasse. Il avait cartographié son lycée, étudié de nombreuses fusillades dans des écoles américaines et comptait perpétrer la pire attaque du genre dans un établissement britannique avec au moins 30 morts, dont lui-même. Même la date n'avait pas été choisie au hasard, le vendredi 13 septembre, ce qui aurait donné un nom mémorable à son projet, la tuerie du vendredi 13. Parce que oui, la seule motivation de Nicolas Prosper, c'était la notoriété. Il n'était pas harcelé, il n'avait pas de motif de vengeance. Son but, c'était de commettre une atrocité qui deviendrait célèbre, qui le rendrait célèbre, comme les tueries de Sandy Hook ou de Columbine aux États-Unis.
Et depuis plusieurs mois, depuis même plusieurs années, Emeline, ce genre d'affaires se multiplie au Royaume-Uni.
C'est vrai, on pense en particulier à la tuerie de Southport en juillet dernier, où un adolescent a poignardé 3 fillettes dans un centre aéré avec la violence pour seul but. Rien que cette semaine, un jeune a été arrêté en Écosse après avoir projeté de reproduire la tuerie de Columbine dans son école. Sans parler des innombrables attaques au couteau perpétrées par des adolescents, les rapports d'enquête qui fuitent dans la presse montrent souvent des jeunes qui ont consommé énormément de contenu violent en ligne. Le programme antiterroriste Prevent, chargé de détecter et d'enrayer la radicalisation, fait état d'une hausse des signalements de 2% en un an.
Et se pose cette question au Royaume-Uni désormais, Emeline, est-ce que ces tueries ne pourraient pas être évitées par les services antiterroristes ?
Alors dans le cas de Nicolas Prosper, il n'y a pas eu de signalement. La tuerie n'a été évitée que parce que le jeune homme s'est rendu à la police après l'assassinat de sa famille. Dans les autres cas, le problème, on l'a dit, c'est qu'il n'y a pas d'idéologie, du moins pas d'autre idéologie que la violence. Or, le terrorisme, c'est la violence à des fins politiques. Donc, les programmes chargés de prévenir les attentats terroristes ne peuvent quasiment rien faire contre cette forme de radicalisation. Le gouvernement a d'abord envisagé de modifier la définition même du terrorisme. Il a lancé une consultation en ce sens. Finalement, c'est trop délicat d'un point de vue légal. Alors, l'exécutif travaille à légiférer pour que les tueries de masse et la préparation de tueries de masse dans un but uniquement violent soient traitées avec la même sévérité que les actes terroristes. Mais évidemment, ce travail législatif pourrait encore prendre plusieurs mois.
Merci Emeline Vin. On vous retrouve tout à l'heure avec Julien Coquel-Rouhem de RFI Matin. Rendez-vous dans un petit peu plus de 3h à 7h20 dans Universel. Mais pour l'heure, il est 5h19. Ici à Paris, on va parler d'une animatrice radio, enseignante, journaliste et surtout d'une écrivaine née à Port-au-Prince. Jean-J. Dominique est parti au Québec à seulement 17 ans, avant de multiplier les allers-retours en Haïti. L'autrice a aujourd'hui 72 ans, elle revient avec un 8e roman intitulé « Tu nous manques ». Jean-J. Dominique, invité ce matin de Catherine Fauchon-Toussaint.
Bonjour Jean-J. Dominique.
Bonjour Catherine.
Vous avez dû quitter Haïti il y a plus de 20 ans et pourtant ce pays est toujours au centre de votre écriture. Pourquoi ?
Parce que on peut quitter Haïti, mais Haïti ne vous quitte jamais. Et je ne suis pas la seule. Il y a même des non-haïtiens qui découvrent le pays, qui découvrent les Haïtiens du pays et qui, comme on dit au Québec, tombent en amour avec Haïti. Donc, l'histoire tragique d'Haïti aussi fait qu'il est difficile d'oublier le pays, d'oublier ce qu'on a connu, ce qu'on a vécu. Et c'est pourquoi je n'arrive pas. On me demande souvent, tu veux pas écrire autre chose ? J'aimerais bien écrire autre chose, mais je n'arrive pas.
Et depuis 20 ans, vous avez pu y retourner ?
On a pu y retourner quelques fois, jusqu'au moment où les gangs ont commencé avec la violence aveugle. À ce moment-là, on n'y est plus retourné.
Et vous qui vivez au Québec, qui écrivez en français, quel est votre lien aujourd'hui avec la langue créole ?
Je fais partie de la toute faible minorité d'Haïtiens dont la langue maternelle est à la fois le créole et le français. J'ai été élevée, donc, dans une famille francophone, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de mes compatriotes. Donc, quand il a fallu pour moi écrire spontanément, c'est le français, puisque c'est dans cette langue que j'ai lu. J'ai toujours énormément lu, donc c'était pour moi naturel. Et, dernière chose amusante, j'ai appris à écrire le créole à l'Université de Montréal. Parce que j'ai eu un cours de linguistique. Le prof québécois, quand il a su que j'étais haïtienne, il m'a dit, mais vous parlez créole? J'ai dit, bien oui, je parle créole. Il m'a dit, j'aimerais que vous travailliez avec moi. J'ai dit, mais je suis désolée, je n'écris pas. Je n'ai jamais appris à l'écrire. Il m'a dit, je vais vous montrer. C'est lui qui m'a montré à écrire le créole, ce qui m'a servi pendant mes années de journalisme, où j'ai travaillé en créole. Et j'ai même été prof de créole au secondaire en Haïti, parce que ça me passionnait d'apprendre cette langue à des jeunes, en leur donnant la chance que moi, je n'avais pas eue.
Est-ce que c'est une langue que vous continuez de parler ?
Oh oui, tous les jours.
Avec qui ?
Tous les jours, avec mon compagnon, avec mon fils, avec mes amis haïtiens. Et comme l'infirmière, quand j'ai été opérée, m'a dit, c'est quoi ce charabia quand je me suis réveillée ? Parce que en sortant de la salle d'opération, dans la salle de réveil, je parlais en créole. Parce que j'étais dans les vapes et l'infirmière québécoise m'a dit, mais vous parlez charabia? J'ai dit, non, je parle créole.
Et vous disiez quoi?
Je ne sais pas, j'ai aucune idée. Mais c'est comme dans mes rêves, je rêve en français, je rêve en créole. Je suis parfaite bilingue à ce niveau-là.
Vous êtes donc au cœur de la francophonie. La langue française, la langue québécoise et la langue créole.
Absolument.
Merci beaucoup, Jean-J. Dominique, d'être venu nous parler de ce nouveau roman qui s'intitule « Tu nous manques » et qui est apparu aux éditions Remue Ménage.
C'est moi qui vous remercie, Catherine.
Voilà, pas de charabia avec Jean-J. Dominique qu'on retrouve tout à l'heure dans la longueur. Elle sera l'invitée de Littérature sans frontières. Rendez-vous à 13h30, temps universel sur RFI.
Le conseil santé avec Suno Assurance.
Et si vous vous réveillez à l'écoute de notre antenne, c'est peut-être l'heure à laquelle vous vous brossez les dents. On parle justement hygiène bucco-dentaire. Laurence Garcia qui reçoit ce matin professeur Géraldine Lescaille.
Bonjour professeur Géraldine Lescaille.
Bonjour.
Vous êtes chirurgien oral, professeur des universités, praticien hospitalier, chef du service de médecine bucco-dentaire à la Pitié-Salpêtrière à Paris. Alors selon l'OMS, la moitié de la population mondiale est concernée par des problèmes dentaires et notamment par des caries qui sont évitables à condition déjà de bien se brosser les dents. C'est quoi la technique idéale ?
Alors, brossage 2 fois par jour, de préférence matin et soir, pas remanger après les repas, bien sûr, le soir, avec une brosse à dents souple, de préférence, et toujours brosser du rose vers le blanc. Donc, on brosse aussi la gencive et toutes les surfaces dentaires, y compris à l'intérieur.
Voilà, c'est bien précis. Brosse à dents manuelle ou électrique ?
Les deux peuvent être utilisées à partir du moment où on les utilise bien.
Et pour les enfants, ça commence très tôt, hein, pour les bébés.
Dès qu'on a des dents.
Dès qu'on a des dents.
Il faut brosser les dents des enfants et dès qu'ils sont, il faut les habituer très très vite à se brosser les dents et plus ils sont autonomes, plus ils le font tout seuls. Mais au départ, il faut les aider, bien sûr.
Et il faut rappeler une hygiène alimentaire, le sucre, on évite.
Voilà, et pas que les produits sucrés, pas que les bonbons, les sodas à éviter, bien sûr, mais également les sucres cachés comme les chips, par exemple, qui collent aux dents.
Et on l'oublie, hein, mais il faut le rappeler, une bonne santé tout court, c'est lié aussi à une bonne santé bucco-dentaire. Autrement dit, voilà, mauvaise hygiène peuvent entraîner aussi d'autres maladies très très complexes et bien plus compliquées encore. Hein.
Tout à fait. Mauvaise santé bucco-dentaire peut donner une mauvaise santé tout court et il y a des pathologies et des traitements qui donnent aussi des problèmes bucco-dentaires, donc les deux sont reliés.
Bien se laver les dents, bonne espérance de vie, pour résumer.
C'est ça.
Merci beaucoup Géraldine Lescaille. Le conseil santé à réécouter sur notre appli Pure Radio. Et ce matin dans Priorité Santé à 9h10 TU, un tout autre sujet, c'est question de femmes. Comme tous les vendredis, on parlera de vos souffrances au travail.
Voilà qui est noté, rendez-vous pris et à tout à l'heure, Laurence Garcia.
Rejoignez la communauté de RFI sur les réseaux sociaux, WhatsApp, Facebook, X et Instagram.
Mais pour le Rumba et Afrobeat, la team 243 qui débarque, team congolaise composée de Bargos et de Koffi Olomidé, pour Maï sur RFI.
Les conseils de ma bête bouga bouga. Bargos.
Ok.
Bargos, les vibrations positives du grand Mopao pour toi.
Sabina kuniga unaniita Suko na kulo na nima Sabina kuniga unaniita Aseni kuniga mai
Mai
Mai
Mai
Mai
Mai
Olingina yela umai Mai Mai Aseni kulete mai
Mai
Mai
Mai
Mai
Mai
Olingina yela umai Mai Mai
Mape
Jean Saddam Hassani, papa numéro 2. Richard Bongania, Laurence Coco, moi mon mêlé.
Les boss Daniel Pesta Makalatas.
Tozo feta ma solo na kitiba. Jugo na kolona tuima. Tusha suka ma bondi na milima. Ozuma mo solo vandi kimia. Tuko tunakona mpaka pa macho. Oki koso takula kiburi yako. Kibote tuko na tusha jasho. Itakuwa je kule kumwisho.
Riko siri mwami.
Eza konsea ndengi ya mabete buka buka.
Leticia Butiti.
Eza konsea ndengi ya mabete buka buka. Ona vi.
Dans la vie,
on ne
sait jamais
ce qu'on a pour l'unanime. Et des vieux pires
au quito. Sabine a connu qu'on a nié.
Maître Lubin de Roger Berton. Jean-Paul Bouchouka.
Maï,
maï,
maï,
maï,
maï.
Mobutu Moke.
Andagabin, Andagabin, Apazagabin. Tu dis jamais bonjour,
bonio.
Nous t'es un pamba,
bonio.
Tu ne calcules pas,
papa.
Tu fais des fiers,
maman.
Sauve mon atoumo, appelle mon qui. Amiro, audience ratée.
Nanak,
ozo boudé. Boudé, ozo boudé. Ozo boudé. Ozo boudé.
Bargos et Koffi Olomidé pour Maï, choix des programmateurs musicaux de RFI ce matin. Benoît Van den Broek et Aurel Charlieu étaient à la réalisation, Raphaël Rennes à la rédaction en chef. Et dans un instant, c'est le retour de l'info africaine sur RFI.
Mai
Cynthia Barra,
Olingina Yellow, Mai
Rosel,
Mai
Fulu,
Mai Minou Miss Univers, Miss Keke, Del Pure Los Angeles Rolls.
Tout à l'heure sur RFI, sur le Pont des Arts, Nathalie Amar.
Ils font feu de tout bois et musique de tout ce qui les entoure. Leur style, le twerkanda. Fulu Miziki sera avec nous. Le groupe venu de Kinshasa, dont le nom signifie « le son des poubelles » en lingala, est de passage à Paris pour un concert au Cabaret Sauvage et avec nous sur RFI.
Sur le Pont des Arts, avec Nathalie Amar. Du lundi au vendredi à 15h10 TU, sur RFI.
BPM.
Bonne pulsation du monde avec Hortense Vol.
Cette semaine, en partenariat avec RFI, le Babel Music XP convie le monde à Marseille, dans le sud de la France, et BPM vous y emmène.
Bonne pulsation du monde, c'est tous les dimanches à 14h10 TU sur RFI.
BPM.